Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Des grandes gueules du sport, spéciale finale de l'Open d'Australie aujourd'hui avec Alcaraz, Djokovic. On suit ça ensemble depuis 9h30, RMC, la seule radio française à vous faire vivre sur place cette finale de l'Open d'Australie. Évidemment, 1-7 partout pour l'instant, 6-2 Djoko dans la première, 6-2 Alcaraz dans la deuxième, pour l'instant 1-0 pour Djokovic dans la troisième manche. Alcaraz au service, bien parti pour égaliser. Je vous rappelle qu'en fin d'émission, vous pouvez participer au jeu du sport avec vos GG, aujourd'hui remporté le maillot signé authentifié de Shaquille O'Neal, donc des Los Angeles Lakers. C'est quand même très stylé. Vous l'encadrez, vous le mettez en haut de votre bureau. Je vous conseille pas de le mettre parce que
il faut un grand grand cadre.
Il faut un grand grand cadre. Il faut un grand appart du coup.
Oui.
Il faut un grand mur.
Oui.
Il faut un grand cadre.
C'est-à-dire que ton petit cadre de 24-32 où tu mets tes photos de vacances,
terrasse,
c'est mort.
Tu mets ça sur la terrasse, il y a des coups de soleil.
On peut l'envoyer à David Douillet. Ouais.
Notre producteur Kylian Véron me dit qu'il faut également un grand clou pour afficher ce grand cadre d'un grand maillot, d'un grand joueur.
Ouais.
Donc voilà, je pense qu'on peut, on peut faire une émission là-dessus. Hein.
Ouais. C'est un trampoline, si tu veux aussi.
C'est de notre partenaire authenticsignature.com pour gagner votre maillot de Shaquille O'Neal. Appelez le 3216 touche 4 ou envoyez jeu J-E-U au 7-32-16. Je J-E-U au 7-32-16. Dans un instant, on fera le GG sur le buzzer à J-5 des JO d'hiver de Milan Cortina. Est-ce que les JO vous font vraiment rêver, ces JO d'hiver avec de la neige? Mais tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Et on est en plein dedans, on est en plein dans l'actu là, on est dans une finale très importante, à un moment où des destins se jouent là, entre Alcaraz et Djokovic, les GG cette semaine. Ce qui nous a marqué, c'est la capacité des sportifs de haut niveau, bah, dont vous avez fait partie, à être capable ou incapable d'élever le niveau de jeu quand ça compte vraiment. On l'a vu avec Djoko et Alcaraz en demi-finale, bah, c'est pas arrivé pour le PSG l'OM cette semaine en Ligue des Champions, mais on parle de ça, de cette capacité quand l'oxygène manque, on va dire, quand la compétition s'élève à des altitudes plus compliquées. Voilà, par exemple, oui, Jérôme montre Christophe, c'est vrai, quand il met un kitesurf.
Dernier exemple,
met un kitesurf,
il arrive ce matin, il n'y arrive pas. Il dans l'eau,
il nous éclaire de son talent.
C'est un exploit,
et ça, c'est fort.
C'est pas le niveau, c'est un exploit.
C'est très, très fort.
On est proche de l'exploit.
Il passera quand même contre l'Antibes.
J'étais pas loin de l'humiliation, quand même. On était prêts à la donner, d'ailleurs.
Il passera quand même au contre l'antidopage à la sortie, monsieur, s'il vous plaît. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça, alors qu'on regarde une finale historique. Être capable d'élever son niveau quand ça compte vraiment, quand on est sportif de haut niveau. On dit parfois l'interrupteur, être capable d'enclencher. Bon, ça, on parle de tennis, là, justement. C'est vrai que c'est peut-être, comme c'est un sport individuel, là où on est le plus dans ça. Comment tu l'as vivé, toi, dans ta carrière?
Comment je l'ai vécu?
Est-ce que tu en étais capable, déjà? Dans les moments importants,
oui,
de
oui
mettre ce pourcentage
oui,
en plus.
Oui, quand c'était des tournois à ma portée ou des joueuses à ma portée, autour de mon classement ou dans des tournois de ma catégorie de c'est-à-dire top 50. Mais en revanche, quand c'était dans des plus gros tournois et avec des adversaires qui étaient sur le papier bien meilleurs, j'arrivais pas à élever mon niveau de jeu parce que je n'arrivais pas à me dire que je pouvais le faire.
J'arrivais pas à surperformer, en fait.
Oui, j'étais dans la démarche de est-ce que je suis capable de tenir le niveau. Donc je rentrais sur le court
battu déjà un peu.
Avec le souci de faire de mon mieux, mais pas de gagner. Donc en fait, c'était je veux juste faire un bon score. Donc en fait, ce plafond, je l'ai pas tenté parce que émotionnellement, psychologiquement,
j'étais pas armée
et c'est peut-être le regret de ne pas avoir réussi à travailler pour aller au-dessus, pour voir. Donc finalement, je m'inclinais avec le nom et le classement qu'il y avait en face, de facto. Donc oui, c'est pour ça que je dis oui et non. C'est-à-dire que quand c'était des joueuses à mon niveau, là, je lâchais rien. Là, je pouvais mourir sur le terrain parce que il y avait le classement qui me disait mais oui. C'est ton classement, Sarah, tu peux le faire.
Fred Le Canu, en judo, on a parlé en préparant ce vestiaire. Tu te reconnais un peu dans ce que dit Sarah? Toi, t'étais un émotif aussi sur les tatamis.
Oui. Bah, en fait, déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on fait son sport avec sa personnalité.
Bien sûr.
Donc déjà,
on la traîne même.
Voilà. Donc quand tu es dans un sport d'affrontement, qu'il soit direct en judo ou indirect en tennis, bon, il faut avoir une espèce de mentalité de gagneur, un peu méchante, je pense, des fois. Moi, j'étais un gentil. Moi, j'avais envie d'embrasser les adversaires, de dire alors, comment va ta grand-mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est déjà un peu.
C'est vrai que c'est sympa.
Bah oui, mais j'ai passé des très bons moments.
Non, mais. Savoir comment vont les grand-mères.
Mais c'est vrai. Mais moi, je pense que j'étais un gentil et ça a été la limite de ma performance. À un moment donné, année, il faut le petit truc en plus justement pour aller chercher la gagne, faut être agressif, faut être engagé, faut être un peu méchant. Et donc ça, je l'avais pas. Et puis surtout, pour revenir sur le sujet, c'est quoi la performance? C'est le mental, le physique, la technique. C'est les trois points. Donc, quand t'as ces trois points qui sont tout en haut,
tu peux marcher sur beaucoup de monde.
Ce qui donne ce déclic, Fred, on est d'accord là-dessus, c'est pour aller chercher l'excellence et le petit truc en plus, le dépassement, c'est ta tête. Hein,
c'est la tête, et puis c'est d'être prêt aussi face à l'adversaire de toutes les manières possibles ou toutes les situations possibles.
Alors, justement, des situations.
D'élever son niveau de jeu, on parle pas de physique et de technique, parce que du jour au lendemain, c'est pas possible. Le seul vecteur que tu peux activer pour aller chercher l'exploit, pour aller chercher un petit plus, pour aller chercher l'au-delà ou la zone où tu n'as pas l'habitude d'aller, c'est ta tête.
Oui, mais la tête, elle est liée à tout, en fait. Tu peux pas le dissocier. Je te prends l'exemple technique. Moi, sur les gauchers, c'était très difficile. Moi, je pouvais battre tous les droitiers du monde. Je pouvais perdre sur un tocard gaucher de sortie de, tu vois, j'étais très mauvais. Parce que, en fait, j'avais pas compris les leviers. Je les ai compris bien trop tard. Une fois que ça a été mieux, dans ma tête, ça a été mieux. Parce que j'avais plus d'assurance. C'est comme ce que tu disais par rapport au classement. Une fois que tu sais, ce gap-là, il est passé. Bon, bah voilà, t'es plus
quand
à l'aise.
Quand tu fais sauter une barrière.
Exactement. C'est ça le haut niveau.
Tu ouvres une porte supplémentaire. Mais c'est ce qui différencie le bon joueur.
C'est hyper cruel. Moi, j'avais en tête en préparant ce vestiaire justement toutes les fois où Federer, Nadal arrivent au bout d'un set. Il y a pas eu de break et d'un coup les mecs ils arrivent 7-5. Ils gagnent le tie break. Ils arrivent à mettre ce petit pourcentage en plus, mais qui doit être déprimant en fait quand t'es face à eux, quand t'es face à des champions.
C'est le privilège d'avoir l'occasion de te connaître en fait. Ça peut paraître
à moi que je directement. Merci.
Non, mais ce que je veux te dire, c'est que toi, je vais te raconter juste une anecdote. On est en Championnat d'Europe par équipe, et moi je suis ce jour-là, je suis dans le flow, je suis intouchable de moi, tu vois, je suis très en forme, tout va bien, je fais un judo comme jamais, tout va bien. On prend les Russes et on prend un adversaire qui a été triple champion du monde qui s'appelle Mikhailin. Mikhailin, c'est Teddy Riner, le bas en finale à Londres, je crois.
Ouais, okay.
Et ce jour-là, en fait, à l'époque, on pouvait faire match nul. Moi je fais match nul, je perds pas. Mais je gagne pas. Et je gagne pas dans une journée où j'ai été dans la version optimale.
Tu marchais sur l'eau.
Je marchais sur l'eau. Bah finalement, ce combat-là, il m'a fait encore plus mal que si j'avais perdu, parce que je savais que je le battrais jamais. Tu vois, ce jour-là, j'ai compris qu'il était intouchable pour moi.
J'arriverais pas à avoir ce petit pourcentage en plus.
Il était gaucher, décalé, il venait faire des petits crochets en pied, il avait toujours un temps d'avance. Et même dans une configuration où j'étais vraiment la meilleure version de moi-même, c'était mort.
Même en élevant ton niveau, quand ça compte vraiment, tu sais que t'es face à un plafond de verre. On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport, être capable d'élever son niveau quand ça compte vraiment, alors qu'on est en plein, justement, dans ça, certainement dans la tête d'Alcaraz et Djokovic qui sont dans leur finale de l'Open d'Australie. Un set partout entre les deux, 2-1 pour Djokovic, service à suivre pour Alcaraz. Jérôme, toi, dans ta carrière, dans le vélo, c'est un sport individuel aussi, c'est un sport d'équipe, mais t'as été capable dans les objectifs que tu te fixais, par exemple, dans les saisons. On sait que toi, t'étais très bon sur les classiques ardennaises, ces classiques un peu montagneuses. T'arrivais à mettre le petit pourcentage en plus dans ces moments-là.
Nous, ça faisait partie de notre quotidien, parce que le coureur que j'étais avait très peu de fenêtres de tir pour profiter de sa forme à lui.
Donc, t'as la pression de te dire, je peux pas me louper là.
C'est ça, j'ai trois courses en fait, oui. Et je l'ai préparé tout l'hiver. Moi, mon levier psycho, c'est moi qui étais un bon vivant et qui, quand il faisait les sacrifices, c'était vraiment très difficile de les faire. C'était pas naturel chez moi de faire attention à tout. Bah, j'allais chercher ça pour me dire, je sais pas passer 15h, 20h, 30h par semaine sur le vélo à 5 degrés sous la pluie. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est souvent le temps qu'il fait en Bretagne, pour aller chier à la porte le jour de l'objectif. C'est de ça dont je me servais tout le temps. À l'entraînement, je me servais de ça pour me dire, il y a ce jour-là, et le jour J, j'allais chercher des zones que je n'avais pas atteintes sur Liège, sur la Flèche Wallonne, et surtout sur l'Amstel.
Ah bah, tu le voyais sur tes données de performance,
bien sûr.
Tu voyais que t'arrivais à être
sur un effort vraiment violent quand la course se faisait dans le dernier tour à Wackenburg. Je pouvais monter avec 20 ou 30 watts de plus que ce que je faisais sur la Brabançonne 15 jours avant. Tu vas chercher des zones parce que c'est là, c'est pas demain, c'est trop tard. C'était pas la veille et ça c'est sur ce moment-là tu vas le chercher. Chercher là parce que
il y a quelque chose d'animal. C'est Julia Simon qui me disait ça il y a quelques jours quand elle a gagné à Novemesto en biathlon. Quand j'ai attaqué, j'étais animal.
Bien sûr.
Je pense qu'un garçon comme Marc Madio, pareil, sur une course comme Paris-Roubaix, qui l'a remporté deux fois et qui lui filait des frissons rien qu'à l'idée de penser à la course le dimanche précédent,
tous ses sens s'activaient.
Je pense que il aurait fallu calculer ses watts pour savoir s'ils n'étaient pas deux fois supérieurs à ce.
Ah, bah, je pense qu'ils pouvaient allumer toute une ville comme Roubaix. Rien qu'en pédalant.
Mais, tu vois, pour revenir sur le côté animal, il y a une dimension qui est très importante aussi. Alors, c'est un peu provoque, mais heureux les simples d'esprit. Parce que le problème de la compétition, c'est que quand tu gamberges, comme moi, j'avais cette faculté à trop réfléchir. Alors, ça m'a servi à comprendre le tennis, à comprendre le vélo.
Les teubés ont plus de chances de performer, c'est ça.
J'ai dit trop.
C'est un raccourci.
J'ai dit trop réfléchir. Mais c'est pour ça, justement, je te fais cette petite truc provoque. C'est que de réfléchir intelligemment à bon escient, il y a aussi une écologie de la pensée. Je me suis perdu dans des représentations de s'il est gaucher, s'il est droitier, s'il fait froid.
Ouais,
s'il fait
chaud. Ça, c'est très, très difficile.
Beaucoup la tête, les athlètes.
Tu sais pas si bien dire, nous, on a un sport qui est lent. Ça va très vite sur le vélo, mais t'as le temps de réfléchir quand même.
T'as le temps de réfléchir, mais tout se décide à un moment.
Et moi, j'ai un exemple parfait pour ça. J'ai fait le Tour de France en 2009. Et j'ai fait un très bon départ. Et le jour de la première arrivée dans les Pyrénées, en Andorre, où gagne Brice Feuillu, je suis échappé avec Brice Feuillu. Et si je suis le premier de l'échapper ce jour-là, or Brice, qui avait pris un tir dans une étape précédente, j'étais maillot jaune pendant 8 jours. J'ai tellement pensé à ça que sur les 10 échappés, il y avait 6 grimpeurs dont je faisais partie, capables de briller là-haut. Ouais. J'ai pété au bout de 2 km.
Un peu comme Ghislain Lambert quoi, qui part à bloc.
Mais tu vois, c'est
intéressant. Et du coup, tu n'as pas réussi à élever ton niveau parce que tu as trop grand-mère.
C'est même pas ça, Georges. C'est qu'à l'analyse, le soir même, avec l'entraîneur et le médecin, on a vu qu'au moment où Nocentini, qui a pris le maillot jaune, rappelez, Nocentini a passé 10 jours.
J'ai 2 heures à mondial.
J'ai besoin d'aller chercher une zone que je pratique, mais quasiment toutes les semaines à l'entraînement, j'en étais incapable. Blocage psychologique.
C'est la représentation. Ce qui est super dur, tu vois, la question, c'est être capable d'élever son niveau quand ça compte vraiment. Qu'est-ce qui compte vraiment?
Ça comptait, 10 jours en jaune. Non, mais c'est ça. Pas 10 jours en jaune aujourd'hui.
C'est comment tu prends du recul. Et en fait, ce qui est super compliqué, c'est, tu sais, Rocky Balboa, à un moment donné, il est dans le dernier round. Et son entraîneur, il lui dit, si tu perds maintenant, c'est le drame de ta vie. Parce que c'est ça en fait le haut niveau. C'est le drame si tu perds. Et en même temps, si tu y réfléchis, eh ben, tu deviens moins fort parce que tu gamberges et tu deviens moins important, moins intéressant, moins évident.
Élever son niveau de jeu quand ça compte vraiment, c'est peut-être le moment justement pour Carlos Alcaraz de breaker Novak Djokovic dans la 3e manche. Ils sont à 7 partout, Eric Salio. Et c'est un moment important peut-être là dans cette rencontre.
Il est dans le dur, Novak Djokovic, c'est incontestable, même s'il donne tout. Je vous l'avais dit en début de reportage, il est prêt à donner sa vie, mais là, il est en difficulté. 2-2 au 3e set, et il y a 0-30. Et surtout, il perd des points qui sont merveilleux, et ça, pour le moral, c'est pas bon du tout de perdre des points que tu avais presque l'impression d'avoir gagné, mais en face, il y avait un mutant, notamment dans le jeu précédent, 15-30. 15-30, là, une faute gratuite de Carlos Alcaraz, mais Novak Djokovic va devoir vraiment aller à la bagarre, parce qu'il faut absolument qu'il sauve sa mise en jeu dans ce 5e jeu du 2e set, mais ça joue merveilleusement bien, on se régale.
Ça joue merveilleusement bien. Non mais Sarah, pour en venir à notre vestiaire là, sur élever le niveau de jeu quand ça compte vraiment, toi quand tu te retrouvais face à des adversaires, on a parlé ensemble de Martin Hingis par exemple, que tu as pas mal affronté, tu l'as voyé réussir à devenir, je sais pas, stratosphérique sur une séquence, quand tu es en face c'est comment?
Oui, mais parce qu'elle faisait tout mieux. Donc elle faisait tout mieux et que j'ai pas de solution, parce que là on parle aussi du mental, mais il y a un moment il y a les qualités physiques et techniques, c'est-à-dire que quand
lucidité
joue,
quand même,
que je joue Serena Williams, si à un moment il va falloir quand même être un petit peu pragmatique, c'est-à-dire que quand je prends des services à 190 et que moi le mien il dépasse pas 130, je suis exposée à chaque coup.
S'il vous plaît, madame, arrêtez de frapper fort.
Mais c'est ça. Quand je joue Monica Seles, qui a les deux pieds sur la ligne et qui joue tellement plus vite que moi j'ai à peine le temps d'armer que la balle revient, il y a des adaptations à faire. Alors j'aurais pu jouer plus vite parce que c'est pas une question de puissance, c'est une question d'adaptation technique et ton œil. Mais quand il y a un contrepoids physique,
c'est le drame de ta discipline.
Exact, et j'ai toujours admiré, mais j'ai une admiration incommensurable pour Justine Hénin qui arrivait à neutraliser les sœurs Williams, alors que Justine fait 1m67, elle avait un remer à une main.
Balle de break pour Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic dans la 3e manche, Eric Salio.
Et le break est fait parce qu'il a explosé sur sa frappe Novak Djokovic. Les jambes ne le portent plus. Break Alcaraz 3-2 dans cette troisième manche. Il est en train de prendre vraiment l'ascendant, le numéro 1 mondial, face à un joueur qui est dans le doute, Novak Djokovic.
Il y a une petite baisse physique qui est vraiment visible du côté des Djokovic. Donc en fait, ses coups sortent, c'est-à-dire que le dernier petit ajustement qu'il doit faire pour continuer à soit être dans l'échange, soit à renverser l'échange, il ne peut plus le faire comme au premier set.
Il joue un tennis de très très haut niveau, Sarah. Est-ce que je me fais tomber dessus, mais tant pis, on peut dire que s'il avait joué deux matchs avant contre Sinner, il serait peut-être pas en finale.
Oui, enfin, tu peux, ou deux matchs avant.
Quand tu vois comment il plie physiquement au bout d'un set et demi.
Oui, mais t'as vu ce qu'il a été capable de faire contre Sinner, en fait, c'est toujours
mais
ça.
Mais il avait pas joué avant.
Oui, bien sûr, il avait
une cartouche.
Faut enchaîner. Ce qui est beau dans un tournoi du Grand Chelem, c'est d'enchaîner les matchs qui durent à très haut niveau. Là,
il y a le premier set.
C'est le quatrième match.
Ouais, mais ça fait partie de l'histoire.
C'est les circonstances.
Ouais, c'est les circonstances.
Oui, mais il est vrai qu'un joueur qui vise une finale doit faire attention dans les premiers tours de pas lâcher de pas lâcher d'énergie ou des sets inutiles.
Rémi sur WhatsApp au 06 24 424 424, envoyez-nous vos messages pour savoir comment vous vivez ce match. Me disait il y a quelques minutes, Djokovic en vieux roublard s'est reposé dans le deuxième set. Il va attaquer dans le troisième comme il a débuté le match. Mais là c'est vrai que le troisième pour l'instant est pas en train de se confirmer.
Il a plus l'énergie. Parce que je pense que la stratégie elle est là. Il y avait aussi ce jeu un petit peu d'utilisation de la force de l'autre. Mais là tu vois que Djoko il revient pas du fond.
Moi les amis, il a plus d'énergie Djokovic. On en parlera quand le match sera terminé.
Djokovic égale Phoenix. Donc il sait comment faire. Il a même tendance parfois à endormir l'adversaire.
Il a plus d'énergie pour l'instant.
Pour l'instant.
Il faut changer les piles.
À la borne.
Allez, le vestiaire, on va fermer la porte du vestiaire.
Pour conclure ce que disait Fred tout à l'heure, c'est j'ai un entraîneur quand j'étais jeune que je me faisais des objectifs très précis, championnat de France. Il me disait toujours réfléchis-y, mais n'y pense pas. C'est un peu la chose qu'il faut.
Ah oui, ça c'est pas facile ça.
Ah, oui, mais c'est-à-dire que tu le prépares, tu dois l'avoir dans la tête, mais dès lors que tu te mets trop de choses souvent.
Il y a un autre truc aussi. C'est le truc que je supporte plus quand les champions on leur dit alors quel conseil vous pouvez donner aux jeunes, faites-vous plaisir. Non, arrête. Arrêtez de dire faites-vous plaisir.
Arrêtez avec ça. Voilà.
Dites juste que je m'entraîne pour un objectif et le plaisir, il est dans la réalisation de cet objectif.
Juste pour fermer ce vestiaire sur comment réussir à élever son niveau de jeu quand ça compte vraiment. T'as pas fini de raconter tout à l'heure, Sarah, tu disais Hénin, elle arrivait à annuler les Williams. Comment elle faisait en fait?
Avec son petit gabarit, elle arrivait à annihiler la puissance adverse et à faire courir. Parce que moi, je savais comment jouer Serena Williams, sauf que je savais pas le faire.
T'as pas demandé à Justine Hénin derrière? Justine, comment tu pouvais
te l'expliquer sur le papier, mais j'arrivais pas à le produire.
La plus grande leçon que j'ai prise une fois, c'est j'arrive à l'INSEP et il y a un entraîneur qui est là, il y a des gars qui font du saut en longueur. Et moi, j'étais à 145 kilos, tu vois, je faisais un peu le malin, judoka, et puis je lui dis, je me demande quand même comment c'est possible que je sois jamais. Je me demande ce qui me manque pour être champion de saut en longueur. Et l'entraîneur, il me regarde, il me fait de talent.
C'est malheureusement ça le haut niveau. C'est cruel, mais il y a un peu de ça quand même.
On avait du talent.
Bien sûr.
Mais pas dans tous les secteurs du jeu, malheureusement.
Exactement.
Quand elle n'a pas de talent, quand elle est en panne de talent, elle peut aussi se mettre à tricher. Ça, on l'a vu hier.
On l'a vu hier dans les jeux du sport. C'est dans quelques instants.
Le coup bas de Christophe.
Allez, dans un instant, on ferme la porte du vestiaire. On va parler des Jeux Olympiques d'hiver qui commencent dans 5 jours. Ça vous intéresse vraiment? Parce que ça vous excite vraiment? À balle ou vous êtes genre combien de temps? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, Yfred Le Canu, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, les grandes gueules spéciales, finale de l'Open d'Australie ce matin entre Alcaraz et Novak Djokovic. L'Espagnol est en train de prendre le dessus. Eric Salio sur place à la Rod Laver Arena.
Ouais, l'insolente jeunesse de Alcaraz et. Elle fait du mal à Novak Djokovic. 4-2 dans le troisième set pour l'Espagnol qui vient de remporter un point monumental il y a quelques secondes, un point que Djokovic aurait gagné sur n'importe quel autre joueur, mais pas sur Alcaraz. Alcaraz qui a des jambes de feu.
Il y a un set partout, on rappelle.
Il est en train vraiment de prendre l'ascendant dans cette finale. 4-2 Alcaraz, Djokovic est au service. Je sais pas ce qu'il a dans la tête, mais là il doit se dire le mot, mais il est trop fort pour moi. Mais il va s'accrocher, on peut lui faire confiance. Il a deux balles pour revenir à 3-4 dans cette troisième manche.
Ouais, le langage corporel, alors si c'était pas Djokovic, on dirait aïe aïe aïe. Et comme c'est Djokovic, on se dit peut-être qu'en fait ça va aller mieux dans pas longtemps.
Il est capable de jouer un peu les roublards aussi. Hein.
Oui, bien sûr.
Il a un petit peu sa marque de fabrique aussi. Après,
il a du talent.
La fatigue est forcément là, mais à quel point.
Tu veux dire qu'il ferait ça pour que Alcaraz lâche un peu les chevaux, fasse tous les points à fond et que.
Et puis ça fait partie du jeu au tennis. Ça fait partie du jeu de parfois lever un pied pour repartir.
T'as couru avec Thomas Voeckler quand même. Thomas Voeckler en vélo, il nous a fait croire 50 fois qu'il était.
Bien sûr.
Qu'il n'avait plus rien dans les chaussettes. Et puis d'un coup, l'attaque de Thomas Voeckler. il faut savoir jouer aussi un peu avec ça. Allez, tout de suite, les Jeux Olympiques, c'est dans 5 jours.
RMC. Jeux Olympiques d'hiver, Milan-Cortina 2026.
J-5.
Piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension.
Tu m'aides pas là?
Non, pas là, non. Écoute Bernard, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher.
RMC, les GG sur le buzzer.
Ce qui est bien, c'est qu'on est. Oui. Il y a un truc qu'on aime pas, c'est la caricature.
Clichés, on n'est pas clichés.
Les clichés. Franchement,
le générique des bronzés font du ski qui revient quand même chaque année.
Ouais. Alors que,
au moment où la Coupe du Monde commence ou au moment des.
Ouais. Alors que pour les JO d'été, alors que les bronzés ils ont aussi le premier été. Oh.
Bip bip. Ouais.
Ça me donne envie de répondre du coup.
Gaffe.
Bon, vous avez compris, RMC se met en mode olympique cette semaine. Ouais, ça me fait déjà quelque chose d'entendre les génériques des jeux. Christophe, tu seras sur place cette semaine à Milan Cortina, donc en Italie. Jeudi soir, la cérémonie d'ouverture qui sera notamment à San Siro. Il y aura Maria Carré. Vendredi soir, c'est le France-Irlande de rugby. Vendredi soir à San Siro, il y aura Marie Carré, il y aura Andrea Bocelli et Christophe Cessieux. Franchement, c'est un triangle d'or. Et puis donc les compétitions qui vont commencer tout de suite avec samedi, il y aura la descente masculine en ski alpin. Et puis dimanche, les filles, on espère que Lindsey Vonn sera là. Il y aura le biathlon qui va commencer. Donc ça va arriver très vite, les grandes émotions sportives sur RMC qui est la radio officielle. Les amis, ce matin, je voulais vous poser la question. Est-ce que oui ou non? Parce que parfois, on a vu notamment dans les questions de Christophe hier avec Amélie Oudéa-Castéra, parfois on a l'impression que les JO d'hiver sont un peu moins considérés que les JO d'été. Est-ce que les JO d'hiver, je vous pose la question, vous font vraiment rêver, Christophe Cessieux?
Oui, ben.
Sinon, tu vas pas.
Évidemment que oui, moi j'adore ça. Fan absolu.
Jérôme Pinault?
Oui, moi aussi, fan absolu.
Fred Le Canu?
Oui, mais il faut bien travailler l'histoire pour bien la comprendre.
Ah, Sarah Pitkowski?
Oui, mais il faut que les circonstances soient favorables.
Allez, on vous attend au 32-16 aussi. Bah, tiens, Sarah, pourquoi tu dis ça?
Circonstances favorables, j'aime suivre toutes les compétitions de sport, j'aime suivre les équipes de France. Et forcément, quand les JO d'hiver se déroulent avec un décalage qui font que ça ne m'arrive pas naturellement.
Comme à Pékin
moi,
et Pyeongchang sur les dernières éditions.
Je dois faire une démarche de décalage horaire. C'est pas la même chose.
Tu le ferais pour les JO d'été, moi pour les JO d'hiver.
Je le ferai pour les JO d'été, pas pour les JO d'hiver.
Mais sans manquer de considération aux athlètes.
Tu es
souvent en vacances, c'est différent.
Effectivement, parce que les JO d'été sont dans une période qui est une période estivale, de vacances, c'est propice. C'est pour ça que je parle des circonstances.
Comme le Tour de France.
Et autre chose, c'est. Je suis fan absolu de l'équipe de France, de porter le. J'adore les sports d'équipe où on est derrière notre équipe de France. Et en jeu d'été, t'as plus de sport co. Et donc, naturellement, je pense que t'es plus dans le partage que dans un sport individuel.
On a l'équipe de France en hockey sur glace cette année, quand même, je le dis.
Oui.
Mais t'es un peu sur cette ligne-là.
En fait, si tu veux, c'est. Moi, je suis un petit garçon à la base qui vient de Normandie. Donc, la montagne, c'était pas.
Elle
m'a pas gagné du tout. Et pour te dire la vérité, je suis pas.
Ah ben non, on a de la côte ouest.
Moi, je suis plus raclette que raquette. Tu vois, bon, c'est pas mon truc. C'est pas ma culture. Donc en fait, j'ai pas cette connaissance fine. Et ça m'a demandé de travailler un petit peu pour comprendre les enjeux. Parce qu'une fois que t'as capté le truc, les jeux d'hiver, c'est absolument fabuleux. On a une équipe de France en biathlon qui est hors du commun.
Ah bah là, bien sûr.
Oui. Dans
c'est
des sports
en clair maintenant. En
dans
plus.
Des sports, dans des sports connus. On a des sports moins connus comme le ski alpinisme où on va voir Arop, par exemple, normalement la française qui va être championne olympique.
On va découvrir le ski alpinisme.
Qui a gagné encore là hier ou avant-hier, tu vois, les courses de préparation. Donc il y a des dimensions absolument incroyable où l'équipe de France est merveilleuse. On va voir un peu de curling pour toi le soir, Jérôme, quand t'as du mal à dormir. Voilà, faire un peu de curling dans ces sports.
C'est plutôt pour Christophe.
Il y a que les jeux qui sont capables de.
Mais voilà, les jeux, tu peux t'enflammer avec des mecs qui font glisser des galets. Enfin, toi, les Jeux Olympiques d'hiver, c'est absolument incroyable.
C'est la pétanque.
Mais ouais, qui glisse. La pétanque qui glisse avec les petits balais.
Encore plus stratégique que la pétanque.
Mais tu vois, c'est passionnant. Mais il faut s'y intéresser. Il faut aller chercher un peu l'information, en fait. C'est la différence avec les Jeux d'été où je pense que t'es embarqué dans un espèce de mood, comme tu disais. C'est l'été. Toi, l'athlète, c'est accessible. On comprend les choses. Voilà.
C'est plus accessible. Là, il faut qu'on te vende une histoire un peu plus.
Là, les consultants et le travail de Christophe. Ce sera très important.
Les jeux d'hiver ne sont pas des sports, sauf si tu es montagnard, que tu pratiques à l'école et dès ton plus jeune âge. C'est aussi ça qui fait que les jeux d'été, tu as toujours une discipline où même le non-sportif a un peu touché à ça, au sport, à l'école.
Après, je précise juste que les vacances commencent pour une grande partie de la France vendredi quand même. Et d'ailleurs, les grandes gueules du sport seront en direct des deux Alpes.
Le vous tir à la carabine, au jeu d'été, tu ne pratiques pas non plus tous les jours.
Non, mais
En revanche, moi, je suis à fond derrière parce que ça, c'est les jeux. Parce que quand tu as été un Olympique, moi, j'ai eu la chance de faire ça, t'es olympique pour toujours, donc cette équipe c'est un
olympien, olympique,
ouais. Olympique. Et tu as participé. Donc quand tu as participé aux Jeux Olympiques,
c'est cool.
Tu suis forcément les équipes de France.
Tu te sens partie de la famille presque.
Et nous le ski avec le vélo, on a quand même beaucoup de connexions et de points communs. Les biathlètes sont des gens qui font beaucoup de vélo, donc évidemment qu'on est amené à se croiser. Donc ce sport, moi, m'intéresse beaucoup aussi pour ça, parce que je connais les gars et les filles qui le pratiquent. Le ski, pareil, les skieurs font beaucoup de vélo l'été. On a quand même beaucoup de stages là-bas, donc on les croise et on a l'occasion de les croiser. Et puis, je trouve que il y a quelque chose aussi de magique grâce au paysage. Alors évidemment, quand c'est à Milan, c'est plus simple à regarder que quand c'est en Chine ou je ne sais pas.
Mais l'hiver où il n'y a pas de neige à Pékin,
la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, quand il n'y a que la piste blanche, c'est pas beau non plus. Je vais te dire,
c'est vrai que ces jeux d'hiver, ces derniers jeux n'ont pas fait grand chose pour la renommée.
Non mais la Cortina, ça va être génial.
Ce qui s'est passé à Pékin. Avec en plus en toile de fond
le
problème du Covid, les robots qui amenaient les repas dans les centres de presse, c'est vrai que ça
a déshumanisé complètement les jeux.
D'avoir envie de regarder les compétitions, mais les jeux d'hiver c'est magique, c'est magnifique, c'est sublime. Moi, pour y avoir participé à plusieurs reprises, ça reste sans doute mes plus beaux souvenirs de Jeux Olympiques. J'ai fait aussi beaucoup de jeux d'été, mais quand tu as la chance, mon premier grand reportage 1998, se retrouver dans l'air d'arrivée de la descente olympique, voir Jean-Luc Chrétier qui...
Là, il y a une balle de 7 pour Carlos Alcaraz, 3 balles de 7.
Ouais, 5-3 pour Carlitos, 0-40 sur la mise en jeu de Novak Djokovic, qui donne vraiment l'impression de ne plus avoir de solution. Donc il tente des coups de vieux grigou avec une amortie, mais bon, il sait qu'en face le mec il cavale comme un fou, donc il perd le point derrière. Ouais, je pense qu'il est au bout de la route malheureusement Novak Djokovic. Écarté cette balle de 7. Ouh là, la deuxième a flirté avec la ligne. Il tente un gros coup, mais ça va revenir encore avec la bande. Donc l'échange continue. Il est très loin derrière sa ligne, Alcaraz. Oh, il remet des balles incroyables, mais là Djokovic va quand même finir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point? C'est ça le problème, c'est que Djokovic, là, il le met trois fois quasiment à la rue.
15-15.
Et ça revient.
15-40.
15-40. Mais bon, il a quand même fini par gagner le point. Mais que d'énergie pour gratter un point.
Encore deux balles de 7 points à Alcaraz.
Un mec qui affiche sa jeunesse débordante, sa jeunesse insolente. Carlos Alcaraz donc a une deuxième balle de 7 à venir sur le service de Novak Djokovic pour se détacher deux manches à une et prendre une option très très importante dans cette finale historique. La première balle, elle est passée de Novak Djokovic. Attention, il va prendre un pion là, j'ai l'impression. Oh là là, c'est violent, ça va très très vite, ça sort. Bien joué Novak. 30-40, deuxième balle de 7, sauvée par le Serbe. Au courage, on a l'impression qu'il lâche le bras. Hein. Il donne tout, en espérant que ça rentre, mais il prend énormément de risques.
Allez, public et pousse derrière Djoko, hein, on le sent, Eric.
Ah
hein.
Oui, évidemment.
Encore une balle de 7 à sauver. Dur.
La numéro 3 à sauver. On n'a même pas atteint les 2 heures de jeu, hein. Au passage, 1h55. Mais c'est d'une violence quand même les échanges et je pense que là il est entamé physiquement. Mais il lâche rien. Troisième balle de 7 à écarter pour Novak Djokovic. Donc 30-40. Première balle. Un ace. Eh ben, c'est un ace. Oh, ben là, il a lucarne.
Ben voilà le mental. Magnifique. Ça va régler son niveau de jeu quand ça compte.
41. 3 balles de 7. effacé avec beaucoup de crans. Oh oui, nickel.
La tu souris, Sarah. Il a des ressources mentales quand même, Djoko.
Oui, c'est une de ses plus grandes forces, effectivement. Et s'il arrive à trouver la concentration ultime et vraiment de la précision au service, il pouvait remporter quelques points gratuitement. Ça permet aussi de faire redescendre le cardiaque, de reprendre un peu du temps.
Pardon, Sarah, amorti. Ouais, assassine, entre guillemets, bien sûr, de Carlos Alcaraz qui lui offre une quatrième balle de set.
Qu'il
n'avait
pas tué, oui.
Celle-là, elle est illisible. Et évidemment, tu ne peux pas y aller. Il n'a plus les jambes pour y aller. Mais même Usain Bolt, il n'aurait pas touché cette balle. J'en suis convaincu. Quatrième balle de set.
C'est une comparaison.
Donc, numéro 4 pour Novak Djokovic, qui est dans les cordes, pour reprendre une expression de la boxe.
Eh ben, disons.
Il est dans les cordes, mais on peut compter sur lui pour tenter. Voilà, service gagnant, il la sauve encore. Quatrième balle de 7, sauvé, les amis. C'est ça, un champion.
Mais un champion dans les cordes, il danse un peu façon Mohamed Ali, il évite les coups, et puis d'un coup, paf, il frappe, il touche comme une guêpe. Il pique comme une guêpe pour s'en sortir.
Une abeille, attention.
Ah oui, on reste évidemment sur ce moment important du match.
Je pense
que
la piqûre de guêpe est plus dangereuse que la piqûre d'abeille.
C'est un vrai débat, ça à faire. On le fera peut-être la prochaine fois dans la grande gueule du sport. On est sur le service de Djoko. On est à 5-3 dans le troisième set. On rappelle, il y a une manche partout. Djokovic qui se déballe et il a sauvé quoi ? 3 balles de set ? 4 balles de set même, face à Alcaraz.
Est-ce qu'il y aura une cinquième à venir ? On aura la réponse dans quelques secondes. Non, je pense pas. Non, un coup droit magnifique, court croisé. Là, il a totalement débordé l'Espagnol. Rien à dire, chapeau. Balle pour revenir à 4 jeux à 5 donc pour Novak Djokovic dans cette troisième manche sous les yeux, je le rappelle, de Rafael Nadal, de Ken Rosewall, qui est un grand champion australien, et Rafa qui se régale. Souvent il y a des plans de coupe où on le voit qu'il se régale et il se met à la place il se revoit joueur, je pense. Il dit celui-là, ça c'est un coup de fou, ça. Allez, balle de 4-5 pour Novak Djokovic. Sursis peut-être dans cette manche. Première balle out, c'est le mauvais carré de service. Il a un peu perdu en efficacité, Novak Djokovic, depuis quelques temps, mais c'est normal. Mais il y a encore une deuxième balle à jouer. Allez, Novak sur le revers de Carlos Alcaraz, qui retourne assez bombé, tranquillement. Il n'a pas peur de Novak Djokovic. Voilà, il part à la faute, là, le Serbe. Ah là, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Égalité, nouvelle égalité, les amis.
Bon, Sarah, là, il y a des jeux qui sont particulièrement importants dans une rencontre. On a l'impression que ça en fait partie, des batailles.
Oui, effectivement, pour rester en vie dans cette troisième manche. Après, il est aussi encore en train de bagarrer sur son service, Djokovic. Sa première l'abandonne un petit peu. Et c'est vrai que c'est compliqué pour lui s'il ne peut pas gagner quelques points gratuits, s'appuyer sur une première. T'es forcément mis sous pression par Alcaraz. C'est ce qu'il avait remarquablement fait face à Sinner. Dans les moments chauds, il avait remarquablement servi comme un métronome, alors que là, effectivement, c'est plus difficile.
Elle est arrivée, la première balle. Un enchaînement, première balle, coup droit, Sarah, avantage Djokovic.
Et ça aide, bien, ça.
Vous êtes dans les grandes gueules du sport, vous suivez la finale de l'Open d'Australie entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Évidemment, on bouscule un peu la programmation parce qu'on est sur une finale de légende. 1-7 partout, je vous rappelle. Et on est dans la troisième manche, 5-3 pour Alcaraz. On est sur le service de Djokovic. Avantage pour le Serbe, Eric.
Avantage pour Novak Djokovic. Donc, pour revenir à recoller à 4-5 et introduire un petit peu le doute dans l'esprit d'Alcaraz, parce qu'au changement de côté, Alcaraz, il va forcément repenser aux 4 balles de 7 et peut-être que sur un malentendu, il peut revenir à 5 partout. Mais bon, il faut fournir l'effort. Il faut gagner ce point par n'importe quel moyen, j'ai envie de dire. Mais Alcaraz, il joue avec lui. Il retourne bombé, j'ai pas peur de toi, viens. Et voilà. Et il gagne l'échange, Alcaraz.
C'est interminable!
Non, mais c'est dingue. Ouais. Il le provoque, tu vois, il retourne bombé, c'est-à-dire très haut, allez, viens, je t'attends, et l'autre, il part à la faute.
Non, mais c'est un duel dans les attitudes et tout. Fred, ça te parle, ça, Fred Le Cagnier.
On est dans un combat, quoi. Et puis, il y a un peu d'intox, et puis, il y a aussi, je regarde, c'est magnifique, et là où je suis vraiment impressionné, c'est la résistance mentale, c'est l'endurance mentale, l'endurance de défense de Djoko. Mais tu sens que c'est un peu, pardonne-moi, mais la chef de Monsieur Seguin. Il se bat contre le loup, mais tu sens qu'à un moment donné, il peut donner tout ce qu'il veut, le loup va le croquer. J'ai pas dit que c'était une chef, j'ai fait un parallèle.
Ah, le loup est en train de le croquer. Le loup, c'est Carlos Alcaraz, je précise pour l'image.
Il a mis le nez à la porte, là. Il frappe à la porte. Nouvelle balle de 7.
Aïe.
La cinquième. Une faute en coup droit de Novak Djokovic. Il est vraiment à la limite de la rupture, là. C'est évident. Et je ne sais pas comment il va encaisser la sanction si jamais il perd ce set, mais bon,
ça va être terrible.
C'est fait, 2-7-1. Il explose côté revers, ça part largement dans le couloir. 2-7-1 pour Carlos Alcaraz. 2-6, 6-2, 6-3, il serre le point, il sait qu'il n'est plus qu'à un set d'un exploit colossal, devenir le plus jeune joueur à compléter les grands chelems.
Deux heures de jeu, 2-7-1 pour Alcaraz face à Djokovic. On est à 5 jours des Jeux Olympiques d'hiver 2000 en Cortina. Vous avez compris, on attend ça avec impatience et on va le suivre sur RMC, radio officielle de la compétition. J'accueille Myriam avec nous au 32-16. Salut Myriam.
Bonjour à tous.
Ah, mais t'es enjoué, je pense, parce que t'as dû comprendre, effectivement.
Je suis absolument émerveillée de cette journée grâce à votre appel.
Oui, parce que tu as gagné 2 places pour France-Irlande. Le tournoi Destination, c'est jeudi, à suivre sur RMC, l'expérience RMC. Tu vas pouvoir venir voir le super Moscato Show et tout. Je te préviens, je pense que le plus impressionnant, c'est le SMS. Hein. Oh, c'est encore quand mieux que le match.
Je serai prête à tout, c'est magnifique.
Super,
c'est
et magnifique. Tu gagnes en plus
vraiment,
aussi.
C'est génial, je vous remercie infiniment. C'est un cadeau exceptionnel que vous me faites et vraiment merci.
Eh ben, on est ravis de vous faire plaisir, vous les auditeurs d'RMC. En plus, il y a aussi un maillot dédicacé du 15 de France. Comme ça, tu pourras aller avec toute la tenue voir ce match du début du tournoi des 6 nations. Félicitations Myriam. Et merci à vous tous de participer au Grande Gueule du Sport au 32-16. On vous attend aussi dans quelques instants pour participer au jeu du sport. Préparez-vous et on suit la finale de l'Open d'Australie. 2-7-1 pour Alcaraz face à Djoko. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Georges Quirino.
Avec Christophe Cessieux, Fred Le Canu, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault. On suit la finale de l'Open d'Australie. Évidemment, avec Eric Salio depuis 9h30 ce matin. 2-7-1 pour Alcaraz dans cette rencontre. Attention parce que Djokovic s'en va avoir peut-être un petit coup physique. On y revient dans un instant. Évidemment, vous ne ratez rien sur RMC. On va continuer de suivre cette rencontre dans les paris RMC, bien sûr. Mais d'abord, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Et je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2, vous allez défendre un auditeur. Christophe Cessieux, associé à Fred Le Canu aujourd'hui, et puis Sarah Pitkowski avec Jérôme Pinault.
Elle enlève l'ordinateur alors.
Ah oui, ben là c'est bon, l'ordinateur
est fermé. Parce qu'elle n'est pas dans mon équipe, ok, donc pas l'ordinateur.
Tu peux le rallumer, Sarah.
Les antisèches, on les cache. Mais Sarah est dans une préparation, c'est incroyable. Je ne sais pas qui est le plus fou entre Christophe et Sarah. C'est pour ça qu'il faut pas vous mettre ensemble, parce que sinon c'est pas marrant. Je vous rappelle, vous pouvez activer la question impossible. La bataille de regard est déjà incroyable, c'est pire que Djokovic et Alcaraz. On accueille les auditeurs, Alexandre et Aurélio. Salut les amis.
Salut.
Et bienvenue dans les Grandes Gueules du Sport. Vous allez jouer, Alexandre, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Cessieux Le Canu ou Pitkowski Pinault.
Oh, c'est sûr le
canif. Excellent choix.
Oh, voilà. Donc Aurélio, tu es avec l'équipe Pitkowski. Pinault, je vous rappelle aujourd'hui, vous pouvez gagner un maillot signé authentifié de Shaquille O'Neal des Lakers grâce à notre partenaire authentiquesignature.com. Allez, c'est parti, concentrez-vous s'il vous plaît.
Allez.
Question à une seule réponse. En 2010, Joe Wilfried Tsonga refaisait une épopée à l'Open d'Australie, mais s'arrêtait en demi-finale. Qui l'a éliminé?
Djoko.
Non.
Qui a éliminé
de son garde en finale?
Qui a éliminé?
Qui a éliminé de son garde en finale? Tu as dit
Federer,
c'est bon ça.
Ah putain, mais après articule.
Oh là, mais tu te moques de moi ou quoi?
Mais tu te moques de moi. J'avais pas compris la question non plus.
Alors là, en plus que Christophe me parle d'articulation, c'est quand même.
C'est de la mauvaise foi jusqu'au bout quoi.
Moi je pense qu'il y a qu'un demi-point, c'est très mal articulé.
Alors.
Non mais je te dis ça parce que j'ai lu ça l'histoire d'hier.
Mal articulé.
Il est battu par Djoko en finale en 2008 et que 2 ans plus tard, il prend sa revanche face à ce même Djoko. Bah
oui. Il refaisait une épopée à l'Open d'Australie, mais ça restait en demi-finale.
On n'a pas d'ordi.
S'il vous plaît,
Christophe Cessieux, demi-finale.
Il faut changer le sonotone de Christophe Cessieux.
Non. Très mal articulé. S'il vous plaît. À chaque fois, vous essayez de m'arnaquer, donc j'en ai marre.
Et monsieur te demande.
Faites entrer l'accusé. Christophe Cessieux, qui est insupportable. Allez, 1-0 pour l'équipe Pitkowski-Pinault. Question à une seule réponse. Les JO d'hiver commencent dans 5 jours, Christophe. Les Jeux Olympiques d'hiver commencent dans 5 jours. Qui domine à l'heure actuelle le classement général de la Coupe du Monde de ski alpin chez les dames? Qui domine la Coupe du Monde?
Chiffrine,
Christophe.
Chiffrine.
Un partout.
Je ne connais pas assez.
J'ai failli dire Schiffer, mais c'est Claudia Schiffer.
Ouais. Bah non, ça n'a rien à voir. Un partout. Question auditeur, c'est pour vous, Alexandre et Aurélio. Vous donnez votre réponse et votre prénom après votre réponse. C'est OK pour vous? C'est OK. Allez, qui est leader de Ligue 1 ce matin?
Aurélio, Lance.
Bam, bien joué. 2-1 pour l'équipe Pitkowski-Pinault. On enchaîne. Question à une seule réponse, Christophe. Quelle équipe a pour la première fois été invitée à participer au Tour de France?
Carraroual.
Voilà.
Carraroual.
Je vois qui, mais je suis incapable de dire le nom.
Jérôme Pinault.
En même temps, s'ils ont des questions pour eux,
Ibet Roquette qui attendait son invitation, cette équipe française.
C'est Jérôme qui fait les questions maintenant.
3-1. Question à une seule réponse. En demi-finale de l'Open d'Australie, cette année, donc vendredi, qui était il y a deux jours, Carlos Alcaraz a célébré sa victoire en rendant hommage à un pilote de Formule 1 très connu. Qui ? Alcaraz a fait une célébration.
Alonso ?
Fernando Alonso !
Oui, en même temps,
les Espagnols.
Oui, bien sûr.
Vous savez ce qui est dingue avec Christophe, c'est qu'il est rancunier, du coup, il a le visage encore fermé. Oh, je suis encore énervé. Voilà, c'est pas ma faute, c'est la faute.
Je l'avais, mais je laisse Christophe
s'exprimer. 3-2 pour les Libéraux. Question auditeur, Alexandre et Aurelio, c'est pour vous votre réponse et ensuite votre prénom. Quelle grande ville italienne va accueillir la cérémonie d'ouverture des JO ?
Turin, Milan, Alexandre.
Milan Alexandre,
c'est chez nous ça.
Trois partout. Eh non, c'est pas Turin, c'est à Milan.
Bien joué Alexandre.
C'est à Milan. Trois partout. Question élimination pour deux points. C'est parti. Vous répondez à tour de rôle.
J'ai le droit de noter ou pas?
Non. Là, t'as le droit de noter.
Je note ce que vous dites. Ouais. C'est dingue ça quand même.
Est-ce que tu te rends compte toi-même à quel point tu peux être
sympa? J'ai pris la main dans le sac quand même. Et c'est moi qu'on
tu perds du temps. Trois partout. Donnez-moi les médaillés français aux JO d'hiver de Pékin il y a 4 ans.
Oh là là.
On commence par Jérôme Pinault.
Clément Noël,
c'est bon. Fred Le Canu.
Trespoche.
Chloé Trespoche, c'est bon. Sarah Pitkowski.
Papadakis Cizeron,
on les prend les deux. Allez, Christophe.
Fillon Maillet.
Quentin Fillon Maillet, bien sûr, avec 5 médailles. Jérôme Pinault. 5.
Julia Simon,
médaillé d'argent dans le relais. Fred Le Canu.
Fourcade.
Non, il était déjà plus là. Il est
si, si, vérifie. Non.
On vérifie. Il n'est plus là. Éliminé. C'est Fred Le Canu. Sarah Pitkowski.
Il peut y avoir quoi comme discipline?
5,
2,
4, 1, 3.
J'en ai plus là.
2, 1. Éliminé. Christophe Cessieux.
Alors, est-ce que Justine Brezaz?
Justine Brezaz Boucher. Et tu égalises. Jérôme.
J'avais pas.
5, 4, 3.
Emilien Jacquelin.
Emilien Jacquelin. Bien sûr, tu le connais bien en plus. Christophe.
Superbe.
Test le 2, bien sûr. Jérôme, ah, c'est un bon combat là. Il n'en reste pas beaucoup. Hein. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dit 6 parce qu'il y a des relayeurs.
Ah bah bravo.
Des relayeurs.
Non, non, mais.
2.
Ça, les 5.
1,
4.
Perrault.
3. Perrault.
Non.
Éliminé.
Les relayeurs du ski de fond.
Bravo. Allez, les deux points pour Christophe Cessieux. Et je regarde le temps. C'est la victoire pour l'équipe Cessieux Le Canu. Comme quoi, ça ne sert à rien de se lever tôt. Il faut gagner juste un moment venu.
Donnez-moi.
Le talent, c'est
incroyable.
Attends. Donnez-moi les noms des médaillés à Pékin, les relayeurs du ski de fond.
Il en a donné un, donc ça marche.
Que dalle.
La victoire.
Venez-moi les sports où on a des médailles, d'accord, je vais te
faire victoire pour.
Mauvais esprit des gens qui ont perdu.
Victoire pour Alexandre, félicitations Alexandre, tu remportes un maillot signé au tout en fil de Shaquille O'Neal des Lakers, de notre partenaire AuthenticSignature.com. Bravo!
Les Jeux du sport sur RMC avec AuthenticSignature.com, le site de référence des maillots signés et certifiés, véritable pièce de collection. Rendez-vous sur AuthenticSignature.com.
Sarah Pitkowski, ulcérée, a déjà quitté le studio. Elle nous a fait ce qu'on appelle dans le milieu une Cessieux. Fred Le Canu, merci Jérôme Pinault, merci Christophe Cessieux. Et avant de les parier RMC, on fera des tours par Melbourne. Eric Salio, la finale de l'Open d'Australie. Alcaraz mène 2-7-1 face à Djoko. On est dans le quatrième.
Absolument, Carlos Alcaraz qui mène 1-0 dans ce quatrième set et qui a peut-être l'occasion de faire le break. Attention, Novak Djokovic est en danger, il n'arrive plus à se mâcher. Si, quand même, il sauve une nouvelle balle de break. 1-0 Alcaraz au quatrième, 41.
Et bien, on va suivre ça dans quelques instants, évidemment, dans les paris RMC. Restez avec nous sur RMC.